Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine en ce lundi 16 octobre 2017. Matin frisquet quand même. Je me présente Claude Blas, première expérience à cette émission et bien heureux d'y être puisque je suis entouré avec deux de vos collaborateurs habituels, soit Madame Franceline, bon matin.
Franceline
Neuviard, voilà. Et M. Roger Roy.
C'est ça, c'est lui-même.
Oui. C'est lui-même, d'accord. Alors, Madame Franceline, on va passer... elle m'a dit de ne pas dire Madame, alors je le dis quand même, mais maintenant, je vais passer à Franceline.
Oui.
Franceline, beau sujet ce matin.
Bon, mais le premier s'intitule « La vie rêvée ». C'est écrit par Yannick Marcil dans le journal L'Itinéraire. Mmh. Et donc, vous verrez de quoi il s'agit. Et ensuite, j'ai deux petits sujets à propos des proches aidants. Le premier est reconnaître les proches aidants d'aînés pour mieux les soutenir. Et le deuxième, un nouveau crédit pour les aidants naturels. Donc,
c'est une bonne nouvelle pour moi, ça.
Ah, bien, voilà.
Reste chez moi.
Eh ben voilà. Vous aurez des informations si vous ne les avez pas déjà.
Merci. Roger?
Alors, pour ma part, je vais vous parler des villes et on incite les citoyens des villes à prendre le contrôle de leur ville. Mm-hmm. Et toujours dans l'actualité, c'est l'actualité du mois d'octobre, changer le monde.
Ah!
13 personnalités du Québec qui ont été rencontrées par le magazine L'Actualité. Et je vous parle de trois de ces personnalités aujourd'hui. David Saint-Jacques, Joanne Liu et Yannick Nézet-Séguin.
Bien hâte d'entendre cela. Alors voilà, on revient tout de suite avec Franceline. Alors, Franceline, faites-moi rêver ce matin.
Oui, la vie rêvée, oui, enfin, vous verrez, vous me direz à la fin de l'article.
D'accord.
Donc, la vie rêvée, c'est donc écrit, comme je l'ai dit tout à l'heure, par Yannick Marcil, qui était un économiste indépendant, hein, qui écrit dans le journal L'Itinéraire. Mm-hmm. La rentrée est derrière nous et les vacances, si nous avons eu la chance d'en bénéficier, semblent déjà bien loin. Nous sommes entrés dans l'époque de l'année où tout se bouscule, au boulot, à l'école, dans les activités sociales et culturelles, les fêtes diverses et variées, et nous savons bien que nous arriverons à Noël épuisés, la langue à terre comme tous les ans. Notre vie, naguère alignée sur le rythme des saisons, l'est maintenant sur celui de la consommation, c'est-à-dire qu'elle ne donne aucun répit. La machine économique s'empresse de transformer tous les aspects de notre existence en occasion de consommer, avec la plus grande efficacité possible, maximiser son expérience au meilleur coût possible. Nous sommes de réussir ses vacances dans le Maine, son party d'Halloween ou son centre de table de Noël. Cette pression à la performance est profondément ancrée dans la logique de notre système économique. La concurrence s'est transformée en compétition, le travail bien fait en productivité et les projets collectifs en réussites individuelles. Il n'y a pas si longtemps en Occident, la vie rêvée, la vie idéale de l'humble famille consistait à élever dignement sa famille, à contribuer positivement au bien-être de sa collectivité et accomplir son travail avec soin. Je ne veux pas laisser entendre que, dans le temps, c'était mieux. Le développement du capitalisme contemporain a permis au plus grand nombre de sortir de la grande pauvreté, aux ouvriers de se libérer de tâches abrutissantes et épuisantes, à émanciper les femmes et à ce que notre bien-être matériel et physique augmente considérablement. Mais en revanche, toutes ces libérations ont créé, de manière perverse, de nouvelles formes d'asservissement à la performance à tout prix dans toutes les sphères de notre vie. Elles ont de plus détruit de nombreux liens de solidarité sociale, en glorifiant la réussite individuelle au détriment d'une vie rêvée ancrée dans la collectivité. Combien de coachs de vie, combien de formations pour améliorer la gestion du temps au travail afin d'être plus productif par rapport aux projets communs dénués de tout profit individuel. Nous avons abandonné cette vie bonne, cette vie rêvée aux multiples facettes bien malgré nous. De fait, s'opposer à cette logique de performance à tout crin ferait de nous des rêveurs, des pelleteurs de nuages. Lorsqu'on regarde avec un peu de distance les ambitions collectives que portaient les années 60 ou 70, on est sidéré de constater à quel point elles n'ont à peu près plus aucun droit de cité dans nos sociétés contemporaines. Pourtant, heureusement, depuis quelques années émergent des idées nouvelles qui ne le sont pas tellement en fait. On remet au goût du jour ces anciennes ambitions de solidarité et de vie rêvée dans le contexte historique qu'est le nôtre. La révolution étant chose du passé, on cherche plutôt à lutter contre le système en créant des espaces de solidarité à l'intérieur. Pas pour rien qu'on entend parler tant d'économie sociale et solidaire par les temps qui courent. Ce concept un peu flou est l'héritier du mouvement coopératif autant que du respect de règles morales dans la conduite des affaires économiques. Malheureusement, il s'agit là trop souvent d'un fourre-tout difforme. Les auteurs français Sébastien Darry-Grand et Hugues Vidor proposent un petit guide pour y voir plus clair en la matière. Il s'intitule « Pour une économie citoyenne » aux éditions Les Petits Matins, publié en 2017. Le mot-clé est dans le titre « Économie citoyenne ». Car voilà bien, nous explique-t-il, ce que le capitalisme contemporain a détruit, l'importance de la contribution de tous et de toutes à la vie de la cité au seul profit de la production économique. Au fond, l'économie sociale cherche d'abord à remettre à l'avant-plan cette idée très simple que notre contribution à la vie économique doit être également une contribution à la collectivité dans son sens large. Plutôt que de nous écrouler sous les pressions de performance tant dans ce que nous consommons que dans notre travail, à nous émanciper individuellement et collectivement, à être en mesure de vivre une vie rêvée plutôt qu'à subir une vie compétitive et asservissante. Voilà donc la vie rêvée selon Yannick Marcil. Et voilà, j'aurais envie de rajouter une petite note personnelle. On aura bientôt l'occasion de manifester notre engagement citoyen en allant voter le 5 novembre et on peut peut-être faire changer des choses.
Et voilà. Vous avez parfaitement raison quand même. Merci madame. Madame Franceline, oui. Après un article extrêmement intéressant de Franceline, ben on va passer à l'article, le premier en fait, de Roger à changer le monde, article pris dans l'actualité naturellement.
C'est ça, alors c'était pour souligner l'arrivée de la nouvelle mouture de l'actualité, celle du mois d'octobre. Le magazine publie des textes sur les personnalités québécoises qui veulent changer le monde. Il y a deux semaines, j'ai lu des textes se rapportant à Sylvie Brochu, PDG de Gaz Métro, qui nous dit essentiellement que le système capitaliste s'en va dans le mur et qu'il faut y voir. Brenda Milner, la centenaire, 99 ans, grande primée des neuropsychologies, toujours active aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Et de Joshua Benji, un grand expert en intelligence artificielle qui refuse d'aller travailler pour les Google ou Facebook de ce monde et qui reste à Montréal pour contribuer au bon positionnement de Montréal dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vous lis les textes consacrés à David Saint-Jacques, Joanne Liu et Yannick Nézé-Séguin. David Saint-Jacques d'abord. Pour lui, le journaliste Noël Chibab, qu'il a rencontré, donne le titre suivant à son texte, « L'appel des étoiles ».
Ah, quand même.
Chercheur en astrophysique, médecin au Nunavik, le curriculum vitae de David Saint-Jacques était déjà costaud avant que ce Québécois soit recruté par l'Agence spatiale canadienne en 2009. En 2018, c'est dans l'espace que ses connaissances et expériences seront mises à profit alors qu'il s'envolera pour un séjour de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. « Quand avez-vous décidé de devenir astronaute? » « Enfin, dit-il, j'ai vu des images de la Terre prises lors de la mission Apollo et j'ai demandé à mon père d'où le photographe avait pris ces photos. » Il m'a répondu, « Le photographe David n'est pas sur Terre, il est dans l'espace. J'ai voulu voir ça de mes propres yeux. Ce fantasme est resté une motivation pour étudier, être en forme, voyager, demeurer curieux. Qu'est-ce qui vous pousse à aller jusqu'au bout? D'abord, c'est ma personnalité, je ne lâche pas. Ensuite, parce que j'y crois. Le programme spatial est l'une des plus nobles quêtes humaines. C'est l'avenir même de notre planète qui passe par là. Je parle souvent de mon expérience aux élèves dans les écoles et certains m'écrivent. J'ai parfois des frissons en prenant conscience de l'effet de quelques mots, de quelques images. Quand je parle du projet fou d'explorer Mars, de faire attention à notre planète, de travailler au maintien de la paix, c'est à eux que je m'adresse. Les graines semées dans la tête des enfants, c'est de là que naît l'avenir, dit-il. Et pour le futur, pendant votre mission, qu'espérez-vous inspirer aux Québécois? À mes yeux, la Station spatiale internationale est un outil de science et de paix au service de tous. Je vais vivre à bord de la machine la plus complexe jamais imaginée par le génie humain, fruit d'une collaboration internationale sans précédent. J'espère pouvoir partager cette perspective et qu'elle sera contagieuse. Autre personnalité, c'est Joanne Liu. Je pense que dès que je vais vous dire de quoi, qu'est-ce qu'elle fait, vous allez réaliser que vous l'avez déjà vue probablement à la télévision. Elle, c'est Catherine Dubé qui l'a rencontrée et le titre qu'elle donne à son texte, c'est « Soigner l'humanité ». Joanne Liu n'aime pas être vue comme une héroïne. La pédiatre urgentologue de 52 ans a pourtant fait plus de 20 missions avec Médecins sans frontières dans des pays dévastés par des guerres, des catastrophes ou des épidémies, avant de devenir présidente internationale de l'organisation en 2013. La maman, qui marche 3 jours avec son bébé malade pour atteindre un centre médical de Médecins sans frontières, c'est elle, l'héroïne, tranche le médecin. Le ton est péremptoire, le regard affirmé. En plus de s'adresser aux hautes instances ONU, G7, G20, pour attirer l'attention sur les crises humanitaires, la présidente de Médecins sans frontières continue de se rendre sur le terrain. En Sierra Leone, elle a pris la mesure de l'ampleur de l'épidémie d'Ebola. Au Yémen, elle a vu les corps déchiquetés des victimes des bombardements. Voir la réalité, aussi horrible soit-elle, lui permet de mieux en témoigner. Car les 35 000 travailleurs humanitaires de MSF ne font pas que soigner. Ils dénoncent les situations qu'ils exigent. L'an dernier, l'organisation a ainsi refusé 63 millions d'euros de l'Union européenne pour protester contre la quasi-fermeture de ses frontières aux migrants fuyant les guerres. Refuser cet argent, environ 5% des revenus annuels de MSF, a été perçu comme un geste courageux par certains, mais comme de l'arrogance par bien d'autres. La présidente l'assume. Il aurait été hypocrite d'accepter des fonds de l'Union européenne alors qu'elle met en application une règle qui, humainement, n'a pas de sens. Emprisonner une maman enceinte qui tente de sauver sa vie ou un enfant qui a fui les bombes en Syrie, je ne comprends pas qu'on criminalise ces gens, dit-elle. Elle pourrait être cynique à force de côtoyer l'horreur. Il n'en est rien. Deux livres lus à l'adolescence résonnent encore en elle et La paix docteur, vibrant témoignage d'un chirurgien de Médecins sans frontières, et La peste d'Albert Camus, mettant en scène un médecin qui combat ce mal sans traitement. Joanne Liu n'a jamais oublié les paroles de ce personnage sur ce qui le pousse à continuer. « Je ne suis toujours pas habitué à voir mourir. » La jeune Liu en a fait sa devise « Ne jamais s'habituer à la mort. » C'est pourquoi elle s'est rendue devant le Conseil de sécurité des Nations Unies l'an dernier pour exiger le respect de la règle la plus élémentaire de la guerre, épargner les civils et les soignants. En Syrie et au Yémen, 34 hôpitaux gérés ou soutenus par MSF ont été la cible d'attaques par des coalitions militaires l'an dernier. L'année d'avant, les Américains, affirmant qu'ils visaient des talibans, ont bombardé un hôpital de Médecins sans frontières en Afghanistan, tuant 42 personnes. « La guerre doit s'arrêter aux portes de notre hôpital », dit Joanne Liu. « Aucune arme n'est tolérée entre nos murs et nous soignons tout le monde, peu importe leur allégeance politique. » Quand on se permet de bombarder des hôpitaux, on renie nos engagements par rapport à la Convention de 1951 de l'ONU relative au statut des réfugiés. Ces choses que nous avons créées collectivement, c'est notre part d'humanité commune. Il faut les défendre. Dernier texte que je veux vous lire, c'est celui qui porte sur Yannick Nézet-Séguin, qui partage sa carrière entre l'Orchestre métropolitain à Montréal, l'Orchestre de Philadelphie et le Philharmonique de Rotterdam aux Pays-Bas. Et en 2020, il deviendra directeur musical du Metropolitan Opera de New York, la plus importante institution culturelle américaine. C'est pas si mal pour un jeune, hein? Sur la beauté, que dit-il? Il dit « La musique dite classique a toujours été une façon d'exprimer les choses qui ne se disent pas en mots et de rassembler les gens. Mais c'était aussi une manière d'analyser, de réfléchir, d'imaginer les mouvements sociaux, que ce soit les guerres ou les célébrations. Cette musique transporte des valeurs qui traversent le temps et qu'on doit continuer de présenter pour mettre en contexte notre monde. » Sur son métier, c'est insécurisant de guider 100 musiciens, d'être scruté par eux. Ça crée parfois des mécanismes de défense comme l'arrogance. Je comprends ce réflexe-là, mais il est contre-productif. Si je veux que l'expérience musicale soit pleinement humaine, il faut que la relation entre le chef et les musiciens soit aussi pleinement humaine. Sur son succès, il dit « Je vois mon visage sur les grandes affiches et je n'arrive pas encore à comprendre que je suis là. » Ce que je voulais faire, c'était me centrer autour de signifiants beaucoup plus que la carrière en tant que telle. Et c'est peut-être une des clés d'une certaine réussite. Alors, Yannick Nézet-Séguin, c'est le dernier des personnalités du Québec dont je voulais vous parler ce matin.
C'est quand même trois belles personnalités quand même. Hein. On parle d'astronaute, présidente des Médecins France sans frontières et le futur président d'un des grands orchestres.
C'est ça. Hein? Changer le monde, donc.
Changer le monde, et pourquoi pas. Belles idées. Merci, Roger. Alors, au retour, moi, je vous parle d'un article sur les indicateurs de santé.
Petit matin sans horizon, petit café fumé d'usine, je regarde le derrière des maisons, les femmes sont à leur cuisine, y a des oiseaux qui se font la cour. Sur les fils du bel téléphone et dans l'œil crevé de ma cour, un 747 qui résonne, il pousse un gros transformateur au cœur de ce qui fut un chêne. Sur la vitre je trace un cœur que la buée retient à peine. Le transistor hurle à la mort, des airs à faire pendre à merle, les enfants s'amusent dehors, dans la slush un collier de perles. Au hasard j'ouvre le journal, crime passionnel rue Lacordaire, paraît que ça va de plus en plus mal pour les mangeurs de pommes de terre. Paraît aussi que le président s'amuse à jouer à la roulette entre deux annonces à la page 100 avec ce qui reste de la planète. Grand-mère, et pour les mots, je mets le phono de mon petit matin solitaire. Dommage que ce soit si gris, j'aurais voulu dire autre chose. Faudrait recommencer la vie avant de rechanter les roses.
La douce folie musicale d'Ariane Moffat, qui reprenait ici Sylvain Lelièvre, dont cette pièce à l'origine de 1975, Petit Matin.
Un beau texte, quand même. Alors, après avoir entendu Roger nous lire un article sur Changer le monde, eh ben, moi, je vais vous donner des indicateurs Dans un magazine qui s'appelle Contact de la compagnie Costco, et c'est un article de Beverly Bumière. Alors, c'est sur les différents indicateurs de santé. Vous savez, on va souvent faire un bilan médical à tous les ans, donc on entend des thèmes. Alors, je vais tenter de vous lire cet article. Alors, la route vers la santé est jalonnée de chiffres. IMC, RTH, glycémie, LDL, HDL. Masse osseuse sont autant d'indicateurs qu'il importe de connaître pour prendre des mesures de prévention ou régulariser un écart par rapport à la norme. Donc, voici un mini-guide pour mieux s'y retrouver dans cette jungle de chiffres. Quand on parle d'IMC, c'est l'indice de masse corporelle qui est le poids par rapport à la taille. Un indice élevé est associé à un risque accru de certains cancers du sein et du sang, ainsi que d'autres maladies. Le chiffre, lui, il est obtenu en multipliant son poids en livres par 703,1, prenez bien des notes, et en divisant ce résultat par sa taille en pouces, puis en divisant encore par sa taille, et ça s'applique seulement aux adultes. La cible, ben, c'est un IMC de 18,5 à 25, qui est considéré comme normal. Supérieur à 30, il indique l'obésité. Même s'ils ont le même IMC, les femmes ont tendance à avoir un taux d'adiposité supérieur et les hommes une masse musculaire supérieure. Le RTH, comme la graisse abdominale, a une incidence plus importante sur le métabolisme que les autres tissus adipeux. Un rapport taille-hanche par rapport à la hanche élevée indique un risque important de maladies cardiovasculaires ou de calculs biliaires. Le chiffre, lui, il est obtenu en divisant son tour de taille en pouces, mesuré sous la cage thoracique, bien important, par son tour de hanche, mesuré au point le plus large. La circonférence de la taille est aussi un chiffre essentiel. Mesurée à la hauteur du nombril, et non à la ceinture, elle devrait être inférieure à 35 pouces chez les femmes et inférieure à 40 pouces chez les hommes. Et regardez bien la différence chez les personnes asiatiques, ces chiffres sont de 31,5 pouces et de 35 pouces respectivement chez les hommes. La cible, elle, ben, c'est le risque de cardiopathie et de diabète, est le plus élevé si le RTH est supérieur à 0,8 chez les femmes et à 1,0 chez les hommes. Maintenant, si on parle de glycémie, la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Ben, un taux élevé révèle la présence du diabète, ce qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Le chiffre, il est obtenu à l'aide d'un test de glycémie à jeun. La cible, ben, c'est un taux santé après 8 heures de jeûne et qui soit inférieur à 6 millimoles le litre. Un taux supérieur à 7 millimoles le litre l'indique un risque de diabète. Le LDL maintenant. Il s'agit du taux de cholestérol des lipoprotéines de faible densité ou mauvais cholestérol. Les dépôts de cholestérol dans les artères augmentent naturellement le risque d'infarctus du myocarde. Le chiffre, lui, ben, il est tout simplement obtenu par l'analyse sanguine du cholestérol. La cible, il faut avoir un taux inférieur à 5,2 millimoles le litre, et ce n'est pas une valeur absolue, mais à plus de 3,5 millimoles le litre, le médecin songera à intervenir. Les LDL des cardiaques doivent être inférieurs à 2 millimoles le litre. Et finalement, le HDL, il s'agit cette fois du taux de cholestérol des lipoprotéines de haute densité, et celui-là, c'est le bon cholestérol. Ce dernier transporte l'excès du mauvais cholestérol des artères vers le foie où, naturellement, il est éliminé. Le chiffre, il est obtenu par analyse sanguine du cholestérol encore une fois. La cible, c'est 1,3 millimoles le litre ou plus chez les femmes et de plus de 1 millimol, c'est ça, le litre chez les hommes. Le score T, eh bien lui, ben, il indique la masse ou densité osseuse de la hanche ou de la colonne vertébrale. Un score faible augmente le risque de fracture et d'autres complications. Le chiffre, il est obtenu par examen de tomodensitrométrie non effectif et sans douleur de la hanche ou de la colonne. La cible, elle, un score T de moins 1,0 ou plus est normal. Un score T entre 1,0 et moins 2,5 signifie une densité faible, donc de l'ostéopénie. Le diagnostic est l'ostéoporose si le score T est inférieur à moins 2,5. Alors, notre journaliste conclut en disant que la santé, c'est souvent une affaire de chiffres. Le compte doit être bon dans tous les cas, naturellement. Donc, c'est un article de Mme Beverly Bumière. Alors, de retour, on a quelques actualités, hein, des brèves.
Oui, des brèves, oui, oui. Alors, une question à Claude qui vient nous parler. De quoi tu parles, toi, là? Vous êtes en vacances. Vous êtes en vacances au Saguenay-Lac-Saint-Jean et quelqu'un vous traite de gigon.
Ah.
Ne le remerciez pas, c'est une insulte. Un gigon ou un zozon, c'est une personne marginale, pauvre et peu sociable, apprend-on dans Discours simples.
Ah,
un recueil de mots et d'expressions typiques du pays du Bleuet et de Charlevoix. Fin-fin et chromo ne sont pas non plus des petits mots doux. Ça, faut le savoir. L'ouvrage a été publié par les presses de l'Université Laval qui contient 5000 entrées, colligées par le linguiste Gaston Bergeron. Voici quelques expressions imagées concoctées à partir de certaines entrées du recueil à prononcer avec l'accent chantant de ce coin de pays. « À cause, tu fais simple de même, toi. Pourquoi agis-tu de façon aussi bête? X, c'est plaisant. Comme c'est agréable. On monte au lac, oublie pas ton braillet. Nous allons au lac Saint-Jean, n'oublie pas ton maillot de bain, un braillet. Ferme la scrigne, ça là. Ça veut dire... Ferme le porte-moustiquaire, ouais. La scrigne. Être gazé, avec un accent circonflexe sur le A, c'est être énervé. Puis avoir la raie serrée, c'est être craintif.
La raie serrée, je l'aime celle-là. Alors, on va tout de suite à la pause. Merci, Roger. Et on revient tout de suite après.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Mais finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège? De vivre en paix pour des amants. Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. À la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
Et ce doux temps automnal qui nous ramène la chanson des vieux amants, Jacques Brel, pièce qui a déjà 50 ans cette année, ça date de 1967.
Quand même, presque aussi vieux que moi.
Alors de retour à cette émission, Les Voix de Service Magazine, avec nos collaborateurs. Madame, oui, je peux le dire parce que je donne votre nom de famille maintenant, Franceline Nieuwaar, et naturellement... On a aussi Roger Roy. Alors, Madame Franceline, on y va avec votre deuxième sujet.
Oui, alors mon deuxième sujet, je vais vous parler des dents naturelles et en particulier reconnaître les proches aidants des aînés. Et ceci afin de mieux les soutenir, ces proches aidants. Je ne suis pas proche aidante, je m'occupe de ma mère. Je l'accompagne pour ses rendez-vous médicaux, ses commissions et je lui prépare quelques repas par semaine. Qui n'a pas déjà entendu cette réflexion de la part d'une personne de son entourage? On peut aussi avoir soi-même ce genre de croyance face à sa propre situation, sans se considérer comme aidant naturel, parce que c'est notre mère, c'est notre père. Et... Se reconnaître comme personne proche aidante est une étape primordiale pour accéder aux ressources de soutien offertes et ainsi prévenir les risques d'épuisement qu'entraîne ce rôle. Or, de nombreux proches aidants d'aînés peinent à se reconnaître. Alors, cet article, il est pour annoncer la Semaine nationale des proches aidants qui aura lieu du 5 au 11 novembre prochain. Donc, je pense que je reviendrai une autre fois encore sur un article à ce niveau-là. Mais reconnaître les proches aidants d'aînés, c'est peut-être important justement pour mieux les soutenir. Qu'est-ce qu'un proche aidant d'aîné? Un proche aidant est une personne qui vient en aide à titre non professionnel et sans rémunération à une personne de son entourage qui présente une ou des capacités temporaires ou permanentes. Il peut offrir un soutien émotif, prodiguer des soins ou rendre divers services. Les proches aidants prennent soin d'un être cher et leur engagement prend forme graduellement en continuité du lien affectif qui les unissait déjà. Il n'est donc pas si évident de prendre conscience qu'à un certain moment, le soutien apporté relève du rôle du proche aidant. La plupart d'entre eux contribuent à se voir d'abord comme fils, frère, femme, amis, Et il n'est pas rare d'entendre « c'est normal que je prenne soin d'elle » ou encore « j'aide mes parents parce qu'ils ont su bien s'occuper de moi ». D'autres raisons font en sorte qu'un proche aidant peine à se reconnaître, par exemple. Et là, je vais vous donner trois statistiques. Par exemple, il n'a pas l'impression que l'aide apportée est suffisante pour qu'il soit désigné comme proche aidant. 44% de la population le considère cette affirmation. Il n'habite pas avec la personne aidée. 34% des gens pensent ça. L'aide qu'il apporte est très informelle. 34%. Au Québec, on compte plus de 1,13 million de proches aidants d'aînés. Il est donc fort probable qu'on en côtoie quelques-uns au quotidien. Heureusement, chacun peut contribuer à une meilleure reconnaissance des proches aidants d'aînés au Québec. Donc, il y a différents organismes ou sites qui sont des outils de soutien qui est important qu'on ait proches aidants à connaître. Le premier, c'est Nous, proches aidants, donc nousproches-aidants.com. C'est un web documentaire qui offre l'opportunité de mieux connaître cette réalité directement de la bouche de proches aidants qui racontent leur histoire. Quiconque est proche aidant d'aîné peut d'ailleurs y ajouter son témoignage. Deuxième élément, ça s'appelle l'appui.org, l-a-p-u-i.org. C'est le site web de l'association qui s'appelle l'Appui, qui offre un répertoire de ressources complets et régionalisées, qui donne des conseils pratiques et une foule d'informations pour faciliter le rôle de proche aidant. Enfin, Info aidant, info-aidant, c'est un service gratuit et confidentiel qui s'adresse non seulement aux proches aidants, mais aussi à leur entourage. Les conseillers sont là pour les écouter, les informer et les diriger vers les ressources offertes dans leur région. Alors je vous rappelle que du 5 au 11 novembre prochain, l'Appui, cette association, donc, profitera de la Semaine nationale des proches aidants pour permettre une plus grande reconnaissance des proches aidants d'aînés. Voilà, donc pour avoir plus d'informations, vous pouvez regarder le site l'appui.org qui va vous donner des détails de cette semaine nationale de la reconnaissance des proches aidants d'aînés.
Et aussi plusieurs autres sites où est-ce que vous pouvez avoir beaucoup d'aide.
Sûrement,
alors n'hésitez
sûrement.
Pas. Alors, Franceline, un deuxième sujet qui est en accord, d'ailleurs,
voilà.
Avec le premier.
Oui, il donne des informations concrètes et plutôt de... J'ai oublié de vous dire que l'article précédemment, celui que je viens de lire, était de Marie-Josée Lacroix dans la revue Le Journal du Bel Âge d'octobre 2017. Et celui que je vais vous lire maintenant, il est de José Geffray, qui est fiscaliste et planificatrice financière, et qui écrit aussi dans, cette fois, la Revue du Bel Âge de octobre 2017, et qui parle d'un nouveau crédit pour aidants naturels. Alors, ça peut être intéressant d'avoir cette information. Dans son plus récent budget, le gouvernement fédéral a simplifié son aide fiscale aux aidants naturels en fusionnant les trois crédits d'impôt non remboursables qui leur étaient destinés en un seul crédit d'impôt. Le crédit pour personne à charge ayant une déficience, celui pour aidants naturels et le montant pour aidants familiaux ne feront plus qu'un dans un nouveau crédit canadien pour aidants naturels appelé le CCAN. Avant 2017, l'aidant naturel, qu'il soit propriétaire ou locataire, était admissible à un crédit s'il hébergeait chez lui un de ses proches âgé de 65 ans ou plus, même si cette personne n'était pas atteinte de déficience. Si vous alliez vivre chez vos parents ou vos grands-parents et que vous contribuiez au paiement des frais liés à la résidence, par exemple le loyer ou l'hypothèque ou l'électricité, les taxes foncières par exemple, il était aussi possible de réclamer ce crédit pouvant atteindre un montant de 4 667 $ selon le revenu du parent. Le crédit devenait nul après un revenu de 15 940 $. Le nouveau crédit d'impôt canadien, donc depuis 2017, non remboursable pour aidant naturel, n'exige plus que vous viviez avec la personne à charge. En revanche, il faudra impérativement que l'aîné soit atteint d'une déficience reconnue pour que le crédit soit octroyé. Dorénavant, l'aidant naturel qui s'occupe d'une personne à charge, atteinte d'une déficience, membre de sa famille, comme un parent, un grand-parent, une tante, un oncle, neveu, nièce, frère, sœur, époux, conjoint de fait ou enfant d'âge adulte, donc il sera admissible à réclamer un montant maximal de 6 883 €. J'ai dit euros, je pense, depuis tout à l'heure. Je m'en aperçois maintenant en prenant dollars. Vous voyez, je suis. Pourtant, ça fait 30 ans que je suis au Québec.
Alors, on salue les auditeurs de la France.
Merci. Donc, un montant maximum de 6 883 $ par personne visée ou 2 150 $ pour un enfant âgé de moins de 18 ans, également atteint de déficience. Si un autre crédit est déjà demandé pour une personne à charge, un époux ou un conjoint de fait, le montant maximal pouvant être réclamé sera de 2 150 $ seulement. Alors, on vous donne encore dans cet article différents chiffres. Je crois que si vous êtes concerné par cette problématique, vous pouvez peut-être plus voir un comptable. Je pense que c'est pas forcément intéressant. Mais je continue. Cependant, si un crédit pour personne à charge ayant une déficience ou le crédit pour époux ou conjoint de fait est demandé à l'égard d'une personne, seul l'aidant naturel ayant demandé un de ces deux crédits pourra demander le crédit canadien pour aidant naturel à l'égard de cette même personne. Cette nouvelle mesure, en vigueur dès 2017, offrira un soutien fiscalement simplifié à ceux qui en ont le plus besoin et s'appliquera aux aidants naturels qui habitent ou non avec le membre de leur famille dont ils s'occupent. Autre particularité du nouveau crédit, l'aidant naturel devant payer une pension alimentaire pour l'une des personnes visées ne pourra réclamer le crédit canadien pour aidant naturel. Ces changements unifient donc et rendent fiscalement plus équitable le soutien gouvernemental offert à ceux qui procurent des soins à un proche et plus seulement un maintien à domicile. Voilà, donc c'était un texte de cette fiscaliste nommée José Geffray dans le Journal du Bel Âge d'octobre 2017.
Et vous l'avez dit, Franceline, c'est très important de rencontrer en fait des professionnels comptables. Ben
absolument,
entre autres.
Oui. Hein, je crois que des fois, on passe à côté de crédits qu'on pourrait avoir.
Ils pourraient tous vous guider.
Absolument.
Alors, on revient dans quelques instants. Retour. Et maintenant, on va passer naturellement à Roger. Roger Roy qui va nous lire un article dans l'actualité, hein, c'est bien ça?
Okay, du mois d'octobre.
Et c'est prenez le contrôle de votre ville. Comment on c'est peut ça. Faire ça?
Bon, alors, c'est pour le faire, là, c'est qu'il y a des municipalités, des maires, qui donnent une partie de leur budget à leurs citoyens, directement. L'article était rédigé par Catherine Dubé, qui s'est intéressée au phénomène. Devant l'écran de cinéma amovible déployé dans le gymnase d'une école primaire de Saint-Basile-le-Grand ce vendredi soir pluvieux de juin, les familles s'installent sur leurs chaises pliantes dans un joyeux désordre, alors que commence la projection de Lego Batman, le film. Quand il fait beau, c'est en plein air que ces soirées de cinéma se déroulent, m'explique Stéphane Desranleau, résident de Saint-Basile et amoureux du 7e art, qui a eu l'idée de cette initiative avec une amie, Manon Desrosiers. Des films en tout genre sont présentés au fil des 6 représentations estivales. Ce cinéma mobile est le résultat tangible du budget participatif de Saint-Basile-le-Grand, une des premières villes au Québec à avoir mené une telle opération en 2014. Depuis 3 ans, la ville de Saint-Basile confie en effet chaque année à sa population le pouvoir de décider ce qu'elle veut faire avec 200 000 $ de son budget. De quoi revitaliser la vie démocratique municipale, trop souvent délaissé par les résidents. Nous voulons donner l'occasion aux gens de réfléchir à ce qu'ils veulent pour leur municipalité. Les élus ne peuvent pas tout voir et tout savoir, dit Bernard Gagnon, le maire de la ville de 17 000 personnes. Les idées émanent toutes de la population qui est ensuite appelée à voter pour couronner les projets gagnants. Difficile de tenir compte de ce genre d'initiative à l'échelle du Québec, tant elle se multiplie. Après les arrondissements montréalais du plateau Mont-Royal dès 2006, du Sud-Ouest, les municipalités de Baie-Saint-Paul, Joliette et Matane ont toutes tenu des budgets participatifs. Nicolet lance le sien cette année. Remettre un peu de pouvoir entre les mains des résidents s'inscrit dans une vague amorcée par la ville brésilienne de Porto Alegre en 1989. Plus de 1500 municipalités dans le monde auraient tenté l'expérience depuis, dont San Francisco, New York et Paris. À Saint-Basile, même si les gens n'ont leur mot à dire que sur une fraction du budget d'immobilisation de la ville, qui s'élève à 7 millions de dollars, cette mesure leur permet de tisser un lien plus fort avec leurs élus. Au conseil municipal, c'est difficile d'avoir leur oreille. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais en raison de la structure elle-même, dit Stéphane Deranlot, l'instigateur du cinéma mobile. La population ne peut s'exprimer que durant la période des questions. Ça, c'est lors des réunions du conseil municipal. Le budget participatif est vraiment l'occasion d'avoir une voix citoyenne, ajoute-t-il. Un budget participatif a de plus d'indéniables vertus pédagogiques. Les résidents voient les contraintes avec lesquelles nous devons composer, souligne le maire de Saint-Basile. Méconnue, la démocratie participative n'attire pas encore les foules au Québec. Le taux de participation au budget participatif n'atteint en général pas 5 %. Cela ne surprend guère Julie Caron-Malenfant, qui est directrice de l'Institut du Nouveau Monde. C'est un organisme qui a pour mission d'accroître la participation à la démocratie. Madame Julie Caron-Malenfant dit « Les gens se mobilisent plus facilement pour s'opposer à un projet qui occasionnera de grandes nuisances, comme un dépotoir. Quand vient le temps de réfléchir aux façons d'améliorer leur qualité de vie quotidienne ou de débattre d'une vision stratégique pour l'avenir de leur milieu, ils se font plus timides. Si la démarche exige, en plus de passer des heures dans des assemblées publiques après le boulot et de faire venir une gardienne pour s'occuper des enfants, bien des gens passent leur tour. L'Institut mise sur la technologie pour aller les chercher. Il a lancé en juin le Lab numérique de la participation citoyenne en collaboration avec la jeune pousse montréalaise BCITI. Jeune pousse, je pense que ça veut dire des start-up.
Ah, okay.
C'est ça. C'est une belle façon de le traduire. Afin de concevoir une application numérique que les villes pourront utiliser pour leur consultation publique, BCITI doit relever le défi de créer une appli. C'est ce qu'on dit aussi, une appli, excusez-moi. Pour un téléphone intelligent qui donnera aux simples citoyens le sentiment d'entrer dans sa collectivité et de pouvoir débattre d'idées avec la même qualité d'échange que lors d'une consultation en personne, souligne Julie Caron-Malenfant. Une autre entreprise montréalaise, Nord Ouvert, offre déjà un logiciel de simulation budgétaire qui permet au Kidam de se mettre dans la peau de ses élus. Plus de 80 villes nord-américaines ont déjà fait appel à ses services. Pas de délibération entre citadins ici, mais plutôt le difficile exercice du pouvoir qui exige d'équilibrer les revenus et les dépenses. Sur l'écran de son ordinateur, le directeur général de Nord Ouvert, Jean-Noé Landry, me présente la plateforme conçue pour Regina, la ville canadienne. Une série de questions telles que « Désirez-vous augmenter, maintenir ou réduire le financement du service d'incendie ?» apparaissent à l'écran, agrémentées de photos et d'explications sur les conséquences de nos choix. Jean-Noé Landry pousse vers la droite le curseur qui apparaît à l'écran pour augmenter de quelques millions de dollars le budget de ce service qui coûte déjà 44 millions. Un bandeau rouge apparaît immédiatement, l'avertissant que la ville est en déficit et qu'il doit comprimer ailleurs pour équilibrer ses finances. C'est un jeu sérieux, car on utilise les vraies données de la ville, dit Jean-Noé Landry. Une fois l'expérience terminée, l'internaute peut en diffuser les résultats sur les réseaux sociaux et inviter ses amis à y participer. De l'avis même de Jean-Noël Landry, une consultation en ligne ne remplace pas une consultation en personne. Elle vient plutôt la compléter. L'idéal est d'organiser quelques activités publiques pour prendre le pouls de la population, Les questions posées en ligne se trouvent ainsi déjà dans les champs d'intérêt des gens et on ne risque pas de retrouver des idées super intéressantes dans la boîte de commentaires. Par ailleurs, pour terminer cet article, revenons à l'expérience de Saint-Basile-le-Grand. En 2017, on n'a pas refait le genre de démarche qui a permis de tenir les soirées de cinéma, mais un nouveau vote de citoyens aura lieu en 2018 et avec une somme deux fois plus importante, c'est-à-dire 400 000 $ du budget de Saint-Basile-le-Grand. Nous voulons aussi trouver les moyens d'augmenter la participation, dit Richard Pelletier, résident de Saint-Basile-le-Grand et bénévole au comité chargé de cette réflexion. La jolie place publique devant l'église où nous discutons, fruit du budget participatif, c'était son idée. Là où ne passait auparavant qu'un petit chemin en asphalte, se dresse maintenant une fontaine entourée de bancs publics où les gens s'arrêtent à l'ombre des chênes à Saint-Basile-le-Grand. Cet aménagement fait revivre le noyau du village. On rêve de plein de choses pour notre ville. C'est une chance qu'on a de pouvoir les réaliser, dit Richard Pelletier. Alors, participation des citoyens, on les exhorte par cet article à prendre le contrôle de leur ville. Au moins une partie du budget.
Et c'est pas sorcier, les villes s'impliquent. Oui, alors pourquoi les gens s'impliquent pas? Franceline le disait un peu plus tôt. Il faut aller voter, il faut vous impliquer comme citoyen. Les villes sont prêtes, ils sont ouverts.
C'est Catherine Dubé qui nous en a parlé dans l'actualité.
Mais merci Roger.
Choc et Laurence Nerbonne qui reprenait « Comment te dire adieu » Serge Gainsbourg, Françoise Hardy.
Alors voilà déjà de retour avec nos collaborateurs. Et Franceline, vous avez quelques nouvelles brèves pour nous?
Oui, par exemple, un psy de chez soi. Parce que les services d'un psychothérapeute ne sont pas toujours accessibles et qu'on n'a pas forcément la possibilité de se déplacer pour en rencontrer un, Pause Thérapie a créé un nouveau mode de consultation en ligne. Tout ce qu'il faut pour y recourir, c'est une connexion à Internet et un ordinateur muni d'une caméra. Une formule idéale pour les gens à mobilité réduite, vivant à l'extérieur des grands centres ou n'osant pas faire le pas de se rendre dans un cabinet privé. Et les services sont offerts par des professionnels membres de l'Ordre des psychologues du Québec. Et donc, c'est pour info, on fait le www.pausetherapie.ca et apparemment, c'est $29 la consultation.
Ah, quand même.
Voilà.
Question existentielle, à quel âge est-on vieux? La Société japonaise de gériatrie propose que les Japonais soient considérés comme des personnes âgées à 75 ans et non plus à 65, comme c'est le cas actuellement. Ce seuil, terriblement dépassé selon la société, ne colle plus à la réalité, puisque les gens vivent en bonne santé beaucoup plus longtemps qu'avant. Cela changerait la perception à l'égard des personnes de 65 à 74 ans qui souhaitent encore travailler. Nombre d'entreprises encouragent en effet leurs employés à prendre leur retraite à 65 ou même à 60 ans. La Société de gériatrie ne prône cependant pas une modification de l'âge minimum pour accéder aux rentes du régime public de retraite. L'État a déjà résolu de faire progressivement passer ce seuil de 60 à 65 ans d'ici 2025 afin de contrer les effets de la population sur les finances publiques du pays.
Alors, merci Roger, merci Franceline. Eh bien, écoutez, c'est une première pour moi. Bien heureux d'avoir travaillé avec les collaborateurs. Bien sympathique, merci. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute et merci à tout le monde. Et merci aux auditeurs, en fait. Hein? C'est ça? Alors, à la semaine prochaine.